autre arc de la spirale pour vous montrer un paysage encore plus grand. Vous rapprochez du soleil. Et lorsque vous aurez tout vu, tout compris sur cet arc-là, ce cousin va passer la main au premier oncle. Cet oncle qui a fabriqué le train à petite vitesse et qui vous emportera sur un autre arc de la spirale pour que vous compreniez, pour que vous voyez tout. Ayant tout vu, tout compris, il vous enverra sur le train à moyenne vitesse. Et un arc est encore accompli, puis vous débordez dans le train à grande vitesse. Et là, quand le tour est terminé, vous disparaissez. Où mène le train à grande vitesse? Vous le saurez un jour ou l'autre, de toute manière. Et si je voulais vous le dire, je serais obligée, paradoxalement, de me taire. Donc, occupons-nous aujourd'hui de cette petite estafette. Êtes-vous certain dans votre vie de tous les jours, dans votre quartier ou sur votre lieu de travail, êtes-vous certain de n'avoir pas négligé une petite estafette qui passait? Vous savez, les petites camionnettes ne font pas beaucoup de bruit. Et puis, comme ce sont des objets fabriqués de toutes mains par ceux qui sont capables de faire quelque chose, ce ne sont pas les véhicules les plus reluisants, si bien qu'il y a des bouts de ficelle par-ci, des pots d'échappement par-là, un vieux pneu raccommodé par-là. Le moteur n'est pas celui d'une Ferrari non plus. La camionnette fait un petit taf, 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 taf. Mais c'est un petit taf, taf qui est plein d'amour, plein d'harmonie. Même si son carburant est vulgaire, parce qu'il est obligé de prendre le carburant de la terre, l'énergie de la terre pour initier les gens, le tout devient quand même une harmonie. Donc, avant de demander la présence de Dieu, avant de demander que Dieu mette des blue jeans et devienne visible sur cette terre, et qu'il partage tous vos repas et tous vos soucis, ayez souci avant tout de repérer où est la petite camionnette, le petit teuf-teuf du bon Dieu. Et faites un bout de chemin avec cette camionnette. Fraternisez avec le petit, petit, petit cousin qui est là et qui essaye de conduire comme il peut sur la terre, en évitant les trous, mais en prenant aussi les bosses, en ramassant tout l'orage, si bien que sa camionnette, 2 jours sur 3, est remplie d'eau. Et il vide sa camionnette avec un seau. Et essayez vous aussi de fabriquer cette camionnette, puisque vous y êtes. Pour ceux qui ont envie de servir et qui ne veulent pas s'envoler sur la grande spirale pour disparaître, essayez de fabriquer votre propre camionnette pour essayer d'aller encore plus loin, encore plus bas que le petit, petit, petit cousin que vous avez rencontré. Et à votre manière d'être un petit, 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 petit cousin qui ira dans le ruisseau ramasser celui qui est malade. Il faut toujours penser à descendre de plus en plus bas. De la même manière que vous devez en même temps conserver ce qui en vous est pure spiritualité. Mais votre amour, lui, doit descendre de plus en plus bas. Être capable, en fait, de se donner à celui qui est complètement au niveau zéro de l'échelle de l'évolution. Et arriver, malgré le jugement qu'on peut faire d'un tel être, arriver à lui donner l'étincelle qu'il faut, avec le même état d'esprit et le même amour que si vous-même, vous receviez l'hostie de la main de Dieu en personne. À partir de ce moment-là, votre propre spirale s'accélère. Et vous pouvez très bien être en train de rouler, par exemple, dans le train à moyenne vitesse, tout en sachant allonger votre esprit, allonger votre amour, pour continuer à naviguer dans une petite estafette et aller coûte que coûte dans tous les villages pour ramasser les petits, 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 petits cousins. Et je dirais que pour l'heure, c'est le geste le plus beau. Que vous soyez dans un train à grande vitesse, à moyenne vitesse ou à petite vitesse, mais dans un train quand même, puisque le train, c'est quelque chose de bien dans l'analogie que j'ai commencée. Que vous soyez dans un train et que vous sachiez rouler sur terre dans une petite estafette, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Voulez-vous que je vous confie quelque chose ? Eh bien, nous en avons assez de ces frères qui sont dans les trains de toutes sortes de vitesses, avec toutes sortes de conforts possibles, avec toutes sortes de voyages possibles, et qui négligent complètement d'aller dans le profond de la brousse, ramasser un enfant qui vient de naître, ramasser un esprit qui vient de naître et le former, ou bien éduquer un homme qui est déjà né, mais lui apprendre à marcher correctement. Ceux qui savent trop de choses sont parfois les plus grands égoïstes du monde, parce qu'ils ne veulent pas aller se salir dans la brousse. Ils se disent, eh bien, si ces êtres-là sont nés là-bas, c'est qu'ils ne valent pas plus cher que cela, donc je ne vais pas m'en mêler. Le jour où ils seront plus évolués, nous pourrons parler. Agir de la sorte, parler de la sorte, est un puissant blasphème. Et croyez-moi, ils ne sont pas rares, ils sont donc nombreux. Les frères qui, ayant acquis la possibilité de voyager dans le train à moyenne vitesse, se trouvent d'un seul coup expulsés dans le train à petite vitesse. Avec un coup de pied magistral, le guide qui surveille le wagon pour voir s'il n'y a pas de faux initiés là-dedans, le guide qui surveille le wagon arrive, le prend par les épaules et lui dit « Toi, tu te moques de nous. Tu te sers du train du bon Dieu pour édifier ta propre course. Alors tu seras renvoyé dans le train à petite vitesse. » Et il est expulsé et il tombe lourdement dans le train à petite vitesse. À la grande surprise de tous ceux qui étaient là, dans le wagon du train à petite vitesse, mais qui n'étaient pas prétentieux. Alors, ils vont autour de lui, ils l'entourent, lui disent « Mais comment ça se fait? T'es descendu par où? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et l'homme ne dit rien, parce qu'il a honte. Pendant quelque temps, généralement, il reste dans ce wagon-là, à ronger son frein, à ne parler avec personne. Puis, si par bonheur il comprend la leçon et ce qui lui est demandé, alors ce genre d'individu, généralement, dépasse toutes nos espérances. Il se renforce puissamment au niveau du train à moyenne vitesse. Et sans même prévenir la hiérarchie, sans même demander l'avis du bon Dieu, il saute sur la terre, sans même avoir pris le temps de se confectionner une petite estafette. Et ils se disent, pour me faire pardonner, je vais beaucoup œuvrer. Et petit à petit, ils vont dans les bois chercher tout ce qu'il faut pour construire un véhicule. Et ils œuvrent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pour celui qui surveille ce type d'individu, pour le guide donc qui a la charge de ce type d'individu, la vie de cet individu devient un paysage fantastique à regarder. Son âme devient un paysage fabuleux. Et pendant des heures, l'initiateur est là à contempler ce disciple, tant sa beauté l'émerveille, tant ce tableau est magnifique. Puis quand les œuvres sont accomplies, les œuvres qu'il avait décidées comme un grand, responsable de lui-même, sachant ce qu'il n'avait pas compris et pas fait autrefois. Quand ses œuvres sont accomplies, il rejoint son initiateur, qui l'emporte tout de suite dans le train à grande vitesse. Toutes ces images que je vous cite sont plus faciles pour moi à décrire que si je voulais véritablement vous prendre l'exemple de Madame X et de Madame Y. Et vous-même, vous arriverez mieux avec les images à voir les correspondances qu'offrent votre propre vie et la vie des autres. Nous avons parlé de beaucoup de choses, alors que j'avais commencé simplement à vous parler de l'aura et de la cristallisation de l'aura. Mais je voulais vous parler de toutes ces choses, que vous les compreniez dans leur fonctionnement, pour que vous ne soyez jamais prisonnier ni de l'estafette, ni de l'omnibus, ni du train à petite, à moyenne ou à grande vitesse, mais que quel que soit votre moyen de transport pour marcher sur la grande spirale, vous sachiez être des hommes libres. Et cette liberté, quelle que soit en fait la profondeur de votre ignorance à l'heure actuelle, ce qui vous empêcherait donc d'être libre. Mais malgré tout, malgré cette profondeur, cette opacité de votre ignorance, vous pouvez obtenir la liberté quand même. Et c'est une liberté précieuse car elle vous permettra d'avancer beaucoup plus vite sur le chemin de l'évolution, de comprendre beaucoup plus vite et de lâcher les choses avant qu'elles ne vous brûlent ou ne vous coupent les mains. Cette liberté, c'est le témoin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce vide diplomatique, ce vide nécessaire qui doit donc vous permettre d'éviter la projection. Si bien que je souhaite pour vous, dès demain, que vous rencontriez quelqu'un qui vous insulte de la pire manière. Je souhaite que cela vous arrive dès demain pour que vous puissiez tout de suite mettre la chose en application et pour que vous puissiez voir tout de suite le bienfait de cette application, la liberté que vous pouvez en ressentir. Et en ressentant cette liberté, en même temps la joie. La joie vous envahira, c'est inévitable. Pourquoi ? La joie vous envahira parce que vous n'aurez pas la tristesse de penser, de croire ce que l'autre vous a dit. La joie aussi, parce que vous aurez pu être victorieux sur vous-même, victorieux sur l'esclave qui est en vous, cet esclave qui croit à tout ce que lui dit son maître. Mais le problème est que l'esclave, et l'esprit tombé dans la matière, ne choisit pas de bon maître parce qu'il est enchaîné. Alors il ne sait pas choisir ses maîtres. Tout devient son maître et c'est pour cela qu'il reste esclave d'ailleurs. Si l'autre dit une chose, l'autre devient une vérité. Donc si l'autre m'insulte et que je le crois, cela veut dire qu'il est mon maître. Je ne peux le croire que si je décide qu'il est mon maître. Je ne pourrais pas le croire autrement. Alors moi, je te pose la question, toi qui cherches la liberté, pourquoi fais-tu des maîtres à tour de bras? Pourquoi est-ce que tu intronises telle ou telle personne comme pouvant être le maître? Et quel mauvais maître? Parce que celui-ci est le maître en création de traumatismes, par exemple. Et bien qu'il te crée des traumatismes tous les lundis matins, tu continues à lui donner ce pouvoir. Tu le sais qu'il est maître tout simplement dans l'art de créer des traumatismes. Alors pourquoi est-ce que tu ne prends pas une distance? Pourquoi est-ce que tu te rends esclave de sa puissance en jouant le jeu? Et tu sais bien que cet autre-là, que tu as pris pour maître aussi, tu sais bien que cet autre-là n'est maître que dans l'art de l'égoïsme. Et que donc, quand tu vas avoir besoin de lui, tu te sentiras très abandonné. Mais pourquoi prends-tu un tel maître? etc., etc. Observez et faites le compte de tous les mauvais maîtres qui régissent votre vie. Et vous vous apercevrez de cette façon-là qu'il est tout à fait normal que vous soyez un esclave en piteux état. Un esclave à qui on ne donne pas à manger, un esclave dans le ventre duquel on donne des coups de pied, un esclave à qui l'on dit n'importe quoi, que l'on laisse dormir dehors. Puisque vous prenez pour maître n'importe qui, pas étonnant qu'il vous arrive n'importe quoi. Retirez le pouvoir à l'autre. Ne le faites plus maître de quoi que ce soit. Mais pour arriver à cela, il y a un impératif que vous devez écouter, sur lequel vous devez méditer. Si vous ne pouvez plus suivre des maîtres qui sont à l'extérieur et qui sont souvent de mauvais maîtres, réfléchissez un petit peu. Trouvez la fin de la phrase avant que systématiquement je vous la donne. Si vous ne pouvez plus faire référence à des maîtres qui sont à l'extérieur, cela veut dire que vous devez... Qui est-ce qui a trouvé ? Que vous allez devoir construire le maître intérieur. Et bien sûr, pour être logique dans mon discours, je dois vous avouer que si l'individu crée des maîtres sans cesse à l'extérieur, c'est parce qu'il n'a pas encore de maître à l'intérieur. De la même façon, un enfant va se remettre complètement sous la protection de ses parents parce qu'il n'est pas capable d'assumer sa propre protection. Alors il va aller complètement sous la protection des parents. Et pour cela, l'enfant sera capable de donner tout son amour pour être protégé, pour être nourri, pour être encerclé. Il va donner tout son amour. C'est la seule monnaie d'échange qu'il possède. De la même manière, des adultes vivent la vie. Ils ne se sentent pas encore véritablement exister. Il ne leur semble pas être encore ni véritablement quelqu'un. Alors ils se mettent dans les mains des autres. Je me pose dans le regard de l'autre. Je me pose dans les mains de l'autre. Mais si l'autre est un mauvais maître, qu'est-ce qui se passe? Si l'autre est un mauvais maître, eh bien, il va te renvoyer une mauvaise image de toi-même. Et toute l'éducation, tout l'exemple que tu cherchais va s'écrouler. Au lieu d'aboutir à la lumière, tu aboutis dans les ténèbres. De la même manière, si tu te remets entre les mains de quelqu'un qui n'est pas un bon maître, tu seras complètement broyé. Et la chaleur, l'amour que tu attendais, tout cela s'est remplacé par la haine, l'abandon, la frustration. Donc, quand tu te projettes et que tu choisis tous ces maîtres, que tu fais l'erreur de les choisir, sache que je te comprends. Que je te comprends et que je te plains. Mais je ne veux pas que tu en restes là. Ce n'est pas parce que c'est compréhensible que tu dois y rester. C'est compréhensible parce que c'est une chose qui va arriver. Mais nous sommes là pour éviter que cela dur, que cela se reproduise. Mais pour que cela soit évité, il faut que tu nous entendes. Et là vient un deuxième problème. C'est que l'homme veut bien regarder tous les mauvais maîtres, parce que ce sont des maîtres accessibles, des maîtres qui, quelque part, sont comme lui. Donc il est crédible. Mais l'homme ne veut pas retourner sa tête et regarder dans le ciel pour voir et entendre le maître qui est capable de lui dire « Attention, tous les autres sont des mauvais maîtres. Ne les crois pas. Ils t'emmèneront vers le traumatisme, les complexes. Tu as cru ta mère quand elle t'a dit cela. C'était un mauvais maître. Maintenant, regarde dans quel état tu es. Alors que moi, depuis des millénaires, je t'ai dit « tu es Dieu ». Et tu n'as jamais voulu le croire, tu n'as jamais voulu m'entendre. Et quand tu fais mine de me répondre, tu me dis « bah alors qui c'est Dieu ?» Comme pour rajouter une énigme supplémentaire à ma parole. Si je te dis « tu es Dieu » et que toi, tu me renvoies la question « qui est Dieu ?», on ne s'en sortira jamais. Alors il faut qu'à un moment donné, le silence existe et que tu acceptes simplement ma parole. Ouvre ton cœur, accepte la parole. Tu es Dieu, tu es la flamme, tu es l'immortalité. Et contente-toi de la phrase pour découvrir ce que cela veut dire. Contente-toi de faire résonner cette phrase pour découvrir ce que cela veut dire. Comme ça, tu n'auras pas besoin de me poser la question. Si tu perçois bien ma parole, la parole contient la réponse à la question que de toute manière ton esprit terrestre me posera. Car il a toujours des questions à poser, celui-là. Sitôt qu'il a vu le soleil dans l'espace, il ne s'est pas dit « tiens, que le soleil est chaud », il s'est dit « pourquoi est-ce qu'il tient tout seul dans l'espace ?» Puis quand on lui a expliqué quelque peu comment est-ce que le soleil tenait, de quelle nature il se composait, alors il a posé encore plus de questions à propos de l'être qui est dans le soleil. C'est impossible qu'une entité soit le soleil. C'est impossible que son rayonnement fasse toute cette chaleur, toute cette lumière, une fois que son énergie est capturée sur une planète. Et si je lui parle quelque peu de l'entité qui est dans le soleil, alors il me pose la question à propos de l'entité qui est dans le soleil. Parce que cela remonte très très loin. Et tant qu'il peut comprendre, cela va bien. Mais au moment où il ne peut plus comprendre, alors ça ne va plus. C'est pourquoi, quand tu veux obtenir des réponses, le seul geste que tu aies à faire, en fait, ce n'est pas de poser la question, mais tout simplement de créer la question, exactement comme tu crées une idée en suspension. Imagine que tu doives construire, par exemple, un ballon avec des petites briques. Une à une, tu poses les briques et tu obtiens ainsi une sphère. Ça, c'est la construction de l'idée. Puis, tu mets cette idée en suspension dans ton espace, dans ta vie intérieure, et tu satellises cet objet, tu fais tourner l'objet lentement autour de toi, qui est le soleil intérieur. Et en le faisant tourner autour de toi, exactement comme n'importe quelle planète reçoit l'énergie du soleil, ce satellite recevra la réponse. La réponse viendra de ton soleil intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu sais utiliser ta substance mentale correctement, donc ton mercure correctement, tu arrives à obtenir de cette substance mentale exactement la même chose que mercure l'obtient du soleil. Parce que le soleil est en toi. Le soleil est à l'intérieur. Et tu peux créer comme cela une multitude de planètes pour pouvoir capter les différentes vérités qu'il contient. Mais pour cela, il faut que tu prépares tes corps. Chaque corps est une planète. C'est exactement comme une sphère qui va tourner autour du soleil et capter capter la lumière du soleil pour en faire une expression. Si bien que si en toi, par exemple, il manque le corps de l'intuition, eh bien il te manque la planète de l'intuition. Ce qui fait que ton soleil, qui lui détient les sept clés de la vérité, ton soleil ne pourra pas te donner sa septième clé, qui sera par exemple la clé de l'intuition. Tu ignoreras complètement la chose. Donc, pour que le soleil te donne tout ce qui est contenu dans la septième clé, construis ton septième corps. Ainsi de suite, pour que le soleil te donne tout ce qui est contenu dans la deuxième clé, construis ton deuxième corps. Qu'est-ce que je veux dire par construire ces corps? Si je parle de la sorte, tout de suite, il va y avoir des complications. Les gens vont s'imaginer qu'ils devront construire quelque chose. Quand je dis en fait « construisez », je peux aussi bien dire « vivez », mais « vivez avec l'esprit ». En vivant avec l'esprit, automatiquement, vous allez construire tous les corps qu'il vous faut pour obtenir les connexions avec votre soleil intérieur et voir ainsi toutes les vérités être révélées. Vivez avec l'esprit. Ne soyez pas des esclaves de tous ces mauvais maîtres. Soyez le témoin qui regarde le mouvement de sa vie, qui participe à la joie, qui va aider quand quelqu'un est dans la souffrance, mais qui ne se permet jamais lui-même d'être dans la souffrance. Un homme qui s'accorde le droit d'être dans la souffrance ne pourra jamais entrer dans le temple. Jamais. Il n'est pas un initié. Ou s'il l'est, il renie sa lumière. Un homme de Dieu ne doit jamais souffrir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit jamais être conscient de ses problèmes et se dire « Ah, moi je suis un initié, tout va bien » et ne pas s'apercevoir de la brique qui est en train de lui fendre la tête. Je ne dis pas cela, car les hommes sont perfides et dès demain, pour prouver qu'ils sont des initiés, ils crieront dans la rue que tout va bien tous les jours. Je parle d'une autre souffrance, une souffrance qui est toute à l'intérieur et qui ronge l'être par l'intérieur. Cette souffrance-là ne doit jamais être permise. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est exactement comme la force d'une ventouse, d'un siphon qui tire l'individu vers le bas. Et une fois que l'individu est allé dans le bas, trop dans le bas, personne ne peut aller le chercher. Il faut attendre longuement qu'il ait décanté sa rogne ou son malheur pour qu'il remonte jusqu'à l'endroit où se trouve la vie, où se trouvent les guides, les frères, etc. Donc, ne vous permettez jamais d'être dans la souffrance. Par contre, soyez lucide de ce qui ne va pas, de ce qui vous induit de temps en temps dans une certaine tristesse, dans un certain déplaisir ou désagrément. Mais la souffrance, ne la permettez jamais. C'est un suicide spirituel, je vous assure. Alors ayez soin de votre âme suffisamment pour ne pas vous amener vous-même vers ce suicide. Et comment faire marche arrière si vous y êtes tombé ? Faire marche arrière, c'est très simple. Retrouver la foi. C'est parce que vous l'avez quelque part perdue à un moment donné pour un signe quelconque, pour un événement quelconque, pour un manque d'observation ou de conscience quelconque. C'est parce que vous l'avez perdue que vous êtes tombé dans ce trou-là. Le trou même que dessinait votre manque de conscience ou cet événement dans votre vie. Retrouvez la foi et automatiquement, comme un volcan qui sort sa lave, vous allez être expulsé de ce tunnel. Et vous verrez qu'en un clin d'œil, vous serez de nouveau non seulement équilibré, mais en plus prêt à aller, quoi qu'il vous en coûte, encore une fois sur la route du bon Dieu et faire toutes ces croisades. Imaginez ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que je vous demande ? Et je vous quitterai sur la fin de cet exposé. Qu'est-ce que je vous demande ? Vous qui êtes venus m'écouter, sachez que ce n'est pas vous qui me demandez quelque chose, mais c'est moi qui vous demande. Qu'est-ce que je vous demande donc ? Je vous demande une bonne fois pour toutes de vous lever sur vos jambes un matin au lieu de vous lever sur vos genoux, au lieu de traîner avec vous tous vos boulets, vos manteaux trop longs pour vous cacher. Je ne remets pas la mode en cause ici, que cela soit entendu. Parce que sinon, je vois que dès demain, tous ceux qui prennent trop au pied de la lettre vont arriver avec des tout petits blousons. Ah oui, je connais l'esprit humain. Je sais les conclusions qu'il tire. Donc, porte.